bonne histoire.
Salut les gens, c'est Doé et je vous raconte encore une histoire aujourd'hui. Un des mille et une nuits de la Bretagne, c'est ainsi qu'Émile Souvestre définissait lui-même ses recueils de contes de Basse-Bretagne particulièrement. Et aujourd'hui, je vais vous raconter Jean Rougegorge, une histoire donc qu'on retrouve dans le foyer breton d'Émile Souvestre. Dans un temps où les chaînes qui ont servi à construire le plus vieux vaisseau de Brest n'étaient point encore des glands, il y avait sur la paroisse de Guirec une pauvre veuve appelée Ninorque Madec. Elle était née d'un père de race noble et de grande fortune. À sa mort, il avait laissé un manoir avec une ferme, un moulin et un four, 12 chevaux et 2 fois plus de bœufs, 12 vaches et 10 fois plus de moutons. Encore ne comptons-nous pas le blé et le lin. Mais les frères de Ninorque, la voyant veuve, l'exclurent du partage. Péric, qui était l'aîné, garda le manoir, la ferme et les chevaux. Fanche, le second, prit le moulin et les vaches. Le troisième, nommé Riwal, eut les bœufs, le four et les moutons, de sorte qu'il ne resta à Ninorque qu'une crèche sans porte bâtie sur la lande et où l'on envoyait autrefois les bêtes malades. Cependant, comme elle allait y porter son mobilier de veuve, Fanche eut l'air d'avoir pitié et lui dit: je peux me conduire avec vous comme un frère et un chrétien. Il y a là une vache noire qui n'a jamais pu profiter et qui donne à peine assez de lait pour nourrir un enfant nouveau-né. Vous pouvez l'emmener et l'épine blanche la gardera sur la lande. L'épine blanche était la fille de la veuve, une enfant qui courait vers ses 11 ans, mais si pâle de visage qu'on lui avait donné ce petit nom d'une fleur des buissons. Ninorque s'en alla donc avec sa petite fille pâle qui traînait par une vieille corde la vache maigre et elle les envoya toutes deux sur la lande. L'épine blanche restait là tout le jour pour surveiller la vache noire qui avait grand peine à trouver un peu d'herbe entre les cailloux. Elle passait son temps à faire de petites croix avec les fleurs de genêt ou à répéter tout haut ses prières à la Vierge. Un jour qu'elle chantait l'Ave Maria Stella, comme elle l'avait entendu à l'église de Guirec, elle vit tout à coup un petit oiseau qui vint se poser sur une des croix de fleurs qu'elle avait plantées dans la terre et qui se mit à gazouiller en remuant la tête et en la regardant comme s'il lui eût parlé. La petite fille surprise s'approcha doucement et prêta l'oreille, mais sans vouloir distinguer ce que disait l'oiseau, il avait beau gazouiller plus fort, agiter ses ailes, voltiger devant l'épine blanche, elle ne comprenait rien à tous ses mouvements. Cependant, elle trouvait tant de plaisir à le voir et à l'écouter qu'elle laissa la nuit venir sans penser à autre chose. Enfin, l'oiseau s'envola et lorsqu'elle leva la tête pour voir où il allait, elle aperçut des étoiles dans le ciel. Elle courut alors bien vite chercher la noire, mais elle ne la trouva plus sur la lande. Elle cria de toutes ses forces, elle frappa les touffes de genêt avec sa baguette, elle descendit dans des trous où l'eau de la pluie formait de petits étangs. Tout fut inutile. Enfin, elle entendit la voix de sa mère qui l'appelait, comme s'il était arrivé quelque grand malheur. Elle courut vers elle, toute saisie, et à l'entrée du champ, dans le chemin qui conduisait au logis, elle trouva la veuve près de la noire que les loups venus des taillis du trieux avaient mangé. Il ne restait plus de la bête que les cornes et les os. À cette vue, l'épine blanche sentit son sang tourner. Elle se jeta à genoux en pleurant qu'il y avait trop longtemps qu'elle gardait la noire pour ne pas l'aimer. Elle répétait: Vierge Marie, pourquoi ne m'avez-vous pas montré le loup? J'aurais fait le signe de la croix avec ma baguette pour le forcer à fuir. J'aurais répété ce qu'on apprend aux petits bergers qui gardent les troupeaux dans la montagne. Va-t'en par Saint-Hervé si tu es loup des champs. Va-t'en par le vrai Dieu si tu es Satan. La veuve, qui vit la douleur de la petite fille, chercha à la consoler, car c'était une vraie sainte. Elle lui dit: il ne faut pas pleurer, la noire, comme vous le feriez pour un de vos pareils, ma pauvre innocente. Si les loups et les mauvais chrétiens sont contre nous, mon Seigneur, le bon Dieu sera pour nous. Aidez-moi donc à charger mon fagot de bruyère et retournons à la maison. L'épine blanche fit ce que sa mère lui ordonnait, mais à chaque pas, elle poussait de gros soupirs et les larmes tombaient une à une sur ses joues. Pauvre noire, pensait-elle, pauvre noire qui était si facile à conduire, qui mangeait de tout et qui commençait à engraisser. Elle n'eut point le cœur de soupirer et elle se réveilla bien des fois dans la nuit, croyant entendre la noire meugler à la porte. Enfin, le lendemain, elle se leva avant le jour et courut à la lande, pieds nus et sans autre habit que sa jupe. « Comme elle entrait sur la bruyère, elle aperçut le petit oiseau qui était encore perché sur la croix de fleurs de genêt qu'elle avait plantée là et qui chantait en ayant l'air de l'appeler. Malheureusement, lui était aussi impossible de le comprendre que la veille et elle allait partir de dépit lorsqu'elle crut voir un louis briller à terre. Elle voulut le retourner avec le pied, mais c'était l'herbe d'or et à peine l'eut-elle touché qu'elle entendit distinctement la langue du petit oiseau qui lui disait dans son gazouillement « Épine blanche, je te veux du bien. Épine blanche, écoute-moi. Qui es-tu ?» demanda Épine blanche, étonnée elle-même de pouvoir comprendre les êtres non baptisés. « Je suis Jean le Rouge-Gorge, répondit l'oiseau. C'est moi qui ai suivi le Christ au calvaire et qui ai brisé une épine à la couronne qui lui déchirait le front. En récompense de ce service, Dieu le Père m'a accordé de vivre jusqu'au jour du jugement et d'enrichir une pauvre fille tous les ans. Cette année, c'est toi que j'ai choisi. « Est-ce vrai, Jean Rouge-Gorge ? » s'écria Épine blanche, toute joyeuse. « Je pourrais donc avoir une croix d'argent au cou et tu me donneras de quoi porter des sabots. Tu auras une croix d'or et tu porteras des souliers de soie, comme une demoiselle noble, répliqua Jean Rouge-Gorge. Et que faut-il faire pour cela, mon cher petit cœur, il faut me suivre ou je te mènerai. » Épine blanche répondit qu'elle ne demandait pas mieux et elle se mit à courir, conduite par Jean Rouge-Gorge. Il lui fit traverser des landes, puis des taillis, puis des champs de seigle et il arriva enfin sur la dune vis-à-vis des sept îles. Là, il s'arrêta et il dit à la petite fille « Ne vois-tu rien sur le sable là-bas devant toi ?»« Oui, bien, » répondit Épine blanche. « Je vois de grands sabots de hêtre qui n'ont pas été rougis au feu et un bâton de houx qui n'a pas été coupé à la fossile. » « Mets les sabots et prends le bâton. C'est fait. Maintenant, tu vas marcher sur la mer jusqu'à la première île et tu en feras le tour d'ici que tu ne trouves un rocher sur lequel pousse du jonc couleur de mer. Après, tu cueilleras le jonc. Tu en feras un lien. C'est comme fait. Tu frapperas ensuite le rocher avec ton bâton de houx et il en sortira une vache que tu attacheras avec la corde de jonc et que tu ramèneras à ta mère pour la consoler d'avoir perdu la noire. » Épine blanche exécuta tout ce qui lui avait été dit par Jean Rouge-Gorge. Elle marcha sur la mer, elle fit le lien de jonc, elle frappa le rocher et il en sortit. Et il en sortit une vache qui avait l'œil aussi doux que celui d'un chien de chasse et la peau lisse comme une taupe de prairie. Ses mamelles couvertes d'un duvet blanc pendaient jusqu'à terre. Épine blanche la conduisit à la maison de la veuve qui fut encore plus joyeuse qu'elle n'avait été triste. Mais ce fut bien autre chose lorsqu'elle voulut traire Morvioc, c'était le nom que Jean Rouge-Gorge avait donné à la bête. Le lait coulait sous ses doigts sans s'arrêter comme l'eau d'une source. Ninorque remplit d'abord toutes les terrines de terre de Quimper, puis toutes les barades de bois, mais le lait ne s'arrêtait pas. « Que la mère de Dieu nous sauve !» s'écria la veuve. « Il faut que cette bête ait bu de l'eau de langue en art !» Et de fait, rien ne pouvait tarir le lait de Morvioc. Elle eut fourni de quoi nourrir tous les petits-enfants de Cornouailles. On ne parla bientôt dans le pays que de la vache et de la veuve, et l'on arriva de tous côtés pour la voir. Le curé de Perros-Guirec vint comme les autres afin de savoir si ce n'était pas un piège du mauvais esprit, mais après avoir mis l'étole sur la tête de Morvioc, il déclara qu'il n'en avait rien à craindre d'elle. Les plus riches fermiers proposèrent donc à Ninorque de lui acheter sa vache, et chacun renchérissait sur l'autre. Enfin, Péric arriva à son tour et lui dit « Si vous êtes une chrétienne, vous n'oublierez point que je suis votre frère et vous me donnerez de la préférence sur tous les autres. Laissez-moi emmener Morvioc et je vous fournirai en échange autant de mes vaches qu'il faut de tailleurs pour faire un homme. » La veuve répondit « Morvioc ne vaut pas seulement 9 vaches, mais elle vaut autant que toutes celles qui pèsent dans les friches du haut et du bas pays. Avec elle, je pourrais fournir tous les marchés de l'évêché de Tréguier et de l'évêché de Cornouailles, depuis Dinan jusqu'à Carhaix. » « Eh bien, reprit Péric, donnez-la-moi, ma sœur, et je vous abandonnerai la ferme de notre père, où vous êtes née, avec tous les champs, les charrues, les chevaux. » Ninorque accepta cette proposition, on la conduisit à la ferme, et après qu'elle eut enlevé une motte de terre dans les champs, bu de l'eau du puits, fait du feu au foyer et coupé une touffe de crin à la queue des chevaux pour prouver qu'elle était devenue la maîtresse de toutes choses, elle donna Morvioc à Péric, qui l'emmena dans une maison qu'il avait bien loin de là, du côté du Ménébré. » Blanche pleura beaucoup quand elle vit partir. Elle la vit partir et resta triste tout le jour. Cependant, quand la nuit fut venue, elle rentra à l'étable pour voir s'il ne manquait rien. Et tout en garnissant les râteliers, elle répétait « Hélas, pourquoi Morvioc n'est-elle pas là? Quand pourrais-je revoir Morvioc ?» Elle n'avait pas fini qu'elle entendit derrière elle un meuglement. Et comme en marchant sur l'herbe d'or, elle avait appris la langue de tous les animaux, elle comprit que ce meuglement disait « Me voici revenue, maîtresse !» Elle se détourna tout étonnée et reconnut Morvioc. « Jésus, est-ce bien vous ?» s'écria la petite fille. « Et qui vous a donc ramené ?»« Je ne pouvais pas appartenir à votre oncle Pierrick, » dit Morvioc, « car ma nature m'empêche de rester avec ceux qui sont en état de péché mortel aussi. Je suis revenu pour être à vous comme autrefois. Alors il faudra que ma mère rende la ferme, les champs et les troupeaux. » Non, car tout cela lui avait été pris injustement par son frère. « Mais il viendra vous chercher ici et il vous reconnaîtra. » Allez d'abord cueillir 3 feuilles de l'herbe de la croix et je vous dirai ce qu'il faut faire. Épine Blanche revint bien vite avec les 3 feuilles. Maintenant, dit Morvioc, promenez les feuilles depuis mes cornes jusqu'à ma queue et dites 3 fois tout bas, Saint Ronan d'Hiberny, Saint Ronan d'Hiberny, Saint Ronan d'Hiberny. Épine Blanche le fit et au 3e appel, la vache était devenue un beau cheval. La petite fille demeura émerveillée. Maintenant, dit la bête, votre oncle Pierrick ne pourra me reconnaître car je ne m'appellerai plus Morvioc mais bien Marmor. En apprenant ce qui s'était passé, la veuve fut grandement réjouie et dès le lendemain, elle voulut essayer son cheval pour envoyer du blé à Tréguier. Mais jugée de son admiration quand elle vit que le dos de Marmor s'allongeait à mesure qu'on le chargeait, si bien qu'on pouvait porter seul autant de sacs que tous les chevaux de la paroisse. Le bruit s'en répandit dans les environs. Fanche averti vint à la ferme et après avoir vu Marmor, il prit à sa sœur de lui vendre. Mais elle le refusa jusqu'à ce qu'elle eût proposé, il lui proposait de donner en retour ses vaches et son moulin avec toutes les porcs qu'il y engraissait. Le marché ainsi conclu. Minorque alla prendre possession de son nouveau bien comme elle l'avait fait de la ferme et Fanche emmena Marmor. Mais le soir, celui-ci était encore de retour près de l'épine blanche qui alla cueillir comme la veille 3 feuilles de l'herbe d'or. L'herbe de la croix, pardon. Les promena des oreilles à la queue du cheval en répétant 3 fois « Saint Ronan d'Hiberny ». Et le cheval se changea à l'instant en mouton couvert de laine aussi longue que du chanvre, aussi rouge que de l'écarlate et aussi fine que du lin peigné. Marmor était devenu Morvaux. La veuve vint pour admirer ce nouveau miracle et en le voyant, elle dit à Épine Blanche « Allez chercher les grands ciseaux du berger car ce cher animal ne peut porter sa toison ». Mais lorsqu'elle voulut tondre Morvade, elle s'aperçut que sa laine poussait à mesure qu'on la coupait, si bien qu'il valait seul tous les troupeaux de l'Arez. Riwal, qui arriva par hasard dans ce moment, fut témoin de la chose et il donna aussi son four, ses landes et tous ses moutons pour avoir Morvaux. Mais au moment où il passait sur la grève avec celui-ci, le mouton se jeta dans la mer, gagna à la nage la plus petite des 7 îles où les rochers s'ouvrirent pour le laisser entrer puis se refermèrent. Épine Blanche eut beau attendre à la ferme, il ne revint ni ce soir-là ni le lendemain. La petite fille courut à la lande et y trouva Jean Rougegorge qui lui dit « Je t'attendais ma petite maîtresse, Marvaux est parti et ne reviendra plus. Tes oncles ont été punis selon leur faute, toi tu es devenue une héritière assez riche pour porter une croix d'or et des souliers de soie ainsi que je te l'avais promis. Je n'ai plus rien à faire ici et je vais m'en voler bien loin. Souviens-toi toujours seulement que tu as été pauvre et que c'est un petit oiseau du bon Dieu qui t'a rendu riche. » Épine Blanche fit bâtir par reconnaissance une chapelle sur la lande, là où Jean Rougegorge lui avait parlé la première fois. Et les vieux hommes qui ont appris cette histoire à nos pères se rappelaient encore d'y avoir allumé des cierges quand ils étaient tout petits. Raconter une histoire, celle de Jean Rougegorge, et on continuera à parcourir le foyer breton des Billes-sous-Vestre la semaine prochaine avec encore une autre histoire. Et ciao, bye bye, c'était Doé qui vous raconte toujours et encore des histoires.